Petite misère de la vie conjugale.
De Honoré de Balzac. En partenariat avec la Comédie-Française. Adaptation et réalisation, Cédric Ossier. Deuxième épisode.
Le conclusum.
Il est 8 heures. Vous arrivez dans la chambre à coucher de votre femme. Il y a force lumière. La femme de chambre voltige. Les meubles sont encombrés de robes essayées, de fleurs rejetées. Le désordre est au comble. Cette chambre est un atelier d'où doit sortir une Vénus de salon. Votre femme veut être la plus belle du bal où vous allez. Est-ce encore pour vous, seulement pour elle, ou pour autrui ? Question grave. Vous n'y pensez seulement pas. Vous êtes serré, ficelé, harnaché dans vos habits de bal, vous allez à pas compter. Un fait bizarre que chacun a pu observer, mais dont les causes sont presque indéterminables, est la répugnance particulière que les hommes habillés et prêts d'aller en soirée manifestent pour les discussions ou pour répondre à des questions. Au moment du départ, les femmes deviennent excessivement agaçantes. Elles vous consultent, elles veulent avoir votre avis sur la manière de dissimuler une queue de rose, de faire tomber une grappe de bruyère, de tourner une écharpe. Suivant une jolie expression anglaise, elles pêchent les compliments à la ligne, et quelquefois mieux que des compliments. Vous lui jetez des éloges qui sont pour vous la petite monnaie à laquelle vous tenez le moins, les sous, les liards de votre bourse.
Cette robe est délicieuse.
Je ne t'ai jamais vue si bien mise.
Le bleu,
le rose,
le jaune,
le ponceau.
Choisissez.
Te va à ravir.
La coiffure est très originale.
En entrant au bal, elles enrageront toutes de ne pas avoir ton goût. Tout le monde t'admirera.
La beauté, nous ne la donnons pas. Mais le goût est comme l'esprit, une chose dont nous pouvons être fiers.
Vous trouvez ? Est-ce sérieusement, Adolphe ?
Votre femme coquette avec vous. Elle choisit ce moment pour vous arracher votre prétendue pensée sur tel ou tel de ses amis et pour vous glisser le prix des belles choses que vous louez. Rien n'est trop cher pour vous plaire.
Partons.
Elle se met à tourner devant sa psyché en vous montrant ses plus glorieuses beautés.
Partons.
Vous êtes bien pressée.
Caroline devient sérieuse. La voiture est avancée. Toute la maison regarde Madame s'en allant. Elle est le chef-d'œuvre auquel chacun a mis la main et tous admirent l'œuvre commune. Votre femme part enivrée d'elle-même et peu contente de vous. Elle marche glorieusement au bal, comme un tableau chéri pour lécher dans l'atelier, caressé par le peintre, est envoyé dans le vaste bazar du Louvre à l'exposition. Votre femme trouve, hélas, 50 femmes plus belles qu'elle. Et il arrive pour l'œuvre féminine ce qui arrive au Louvre pour le chef-d'œuvre. La robe de votre femme pâlit auprès d'une autre presque semblable, dont la couleur, plus voyante, écrase la sienne. Caroline n'est rien. Elle est à peine remarquée. Elle essaie de se grimer pour jouer le contentement et comme elle n'est pas contente, elle entend dire « Madame Adolphe a bien mauvaise mine ». Les femmes lui demandent hypocritement si elle souffre. Pourquoi ne pas danser ? Elles ont un répertoire de malice couverte de bonhomie, plaqué de bienveillance à faire damner un saint, à rendre un singe sérieux et à donner froid à un démon. Vous, innocent, qui jouez, allez et venez, et qui ne voyez pas une des 1000 piqûres d'épingles par lesquelles on a tatoué l'amour-propre de votre femme, vous arrivez à elle en lui disant à l'oreille
« Qu'as-tu ? »
« Demandez ma voiture. »
Ce « ma » est l'accomplissement du mariage. Pendant 2 ans, on a dit « la voiture de monsieur »,« la voiture »,« notre voiture » et enfin « ma voiture ». Vous avez une partie engagée, une revanche à donner, de l'argent à regagner, mais vous finissez par demander la voiture. Votre femme y monte avec une rage sourde. Elle se flanque dans son coin, s'emmitoufle dans son capuchon, se croise les bras dans sa pelisse, se met en boule comme une chatte et ne dit mot. Vous lui dites votre imbécile, niais et indifférent.
Qu'as-tu ?
Axiome.
Un mari doit toujours savoir ce qu'a sa femme, car elle sait toujours ce qu'elle n'a pas.
Froid.
La soirée a été superbe.
Oui, oui. Rien de distingué. L'on a la manie aujourd'hui d'inviter tout Paris dans un trou. Il y avait des femmes jusque sur l'escalier. Les toilettes s'abîment horriblement. La mienne est perdue.
On s'est amusé.
Vous autres, vous jouez, tout est dit. Une fois mariés, vous vous occupez de vos femmes comme les lions s'occupent de peinture.
Je ne te reconnais plus, tu étais si gaie, si heureuse, si pimpante en arrivant.
Vous ne nous comprenez jamais. Je vous ai prié de partir et vous me laissez là comme si les femmes faisaient jamais quelque chose sans raison. Oh, vous avez de l'esprit, mais dans certains moments vous êtes vraiment singulier. Je ne sais à quoi vous pensez.
Une fois sur ce terrain, la querelle s'envenime. Quand vous donnez la main à votre femme pour descendre de voiture, vous tenez une femme de bois. Elle vous dit un merci par lequel elle vous met sur la même ligne que son domestique. Vous n'avez pas plus compris votre femme avant qu'après le bal. Vous la suivez avec peine, elle ne monte pas l'escalier, elle vole. Il y a brouille complète. Madame se couche, elle a une revanche à prendre. Vous ne l'avez pas comprise, elle ne vous comprend point. Votre Caroline, si agaçante 5 heures auparavant dans cette même chambre où elle frétillait comme une anguille, est du plomb en saumon. Vous seriez le tropique en personne, à cheval sur l'équateur, vous ne fondriez pas les glaciers de cette petite Suisse personnifiée qui paraît dormir et qui vous glacerait de la tête aux pieds au besoin. Vous lui demanderiez 100 fois ce qu'elle a, la Suisse vous répond par un conclusum, elle n'a rien, elle est fatiguée, elle dort. Axiome.
Les femmes, sachant toujours bien expliquer leur grandeur, c'est leur petitesse qu'elle nous laisse à deviner.
Caroline daignera vous dire peut-être aussi qu'elle se sent déjà très indisposée, mais elle rit dans ses coiffes quand vous dormez et profère des malédictions sur votre corps endormi.
La logique des femmes.
Vous croyez avoir épousé une créature douée de raison, vous vous êtes lourdement trompé, mon ami. Axiome.
Les êtres sensibles ne sont pas des êtres sensés.
Le sentiment n'est pas le raisonnement. La raison n'est pas le plaisir et le plaisir n'est certes pas une raison.
Oh, monsieur.
Ah ! Oui. Ah ! Vous lancerez ce « ah » du plus profond de votre caverne thoracique en sortant furieux de chez vous ou en rentrant dans votre cabinet abasourdi. Pourquoi ? Comment ? Qui vous a vaincu, tué, renversé ? La logique de votre femme, qui n'est pas la logique d'Aristote, ni celle de Kant, ni celle de Robespierre, ni celle de Napoléon, mais qui tient de toutes les logiques et qu'il faut appeler la logique de toutes les femmes. La discussion s'est engagée après le déjeuner. Le déjeuner est un repas assez gai, la gaieté n'est pas raisonneuse. Vous avez mis dans votre tête d'envoyer votre enfant au collège. Les pères sont tous hypocrites et ne veulent jamais avouer que leur sang les gêne beaucoup quand ils courent sur 2 jambes, portent sur tout ses mains hardies et frétillent comme un têtard dans la maison. Votre enfant jappe, miaule et piaule, il casse, brise ou salit les meubles, et les meubles sont chers. Il fait sabre de tout, il égare vos papiers, il emploie à ses cocottes le journal que vous n'avez pas encore lu. La mère lui dit « à tout ce qui est à vous », mais elle dit
« prends garde »
à tout ce qui est à elle. Sa mauvaise foi de bonne mère est à l'abri derrière son enfant. L'enfant est son complice. L'enfant va triomphalement ou sournoisement à la maraude dans votre garde-robe. Il reparaît caparaçonné de caleçons sales. Il met au jour des choses condamnées aux gémonies de la toilette. Il apporte à une amie que vous cultivez, à l'élégante madame de Fichetaminel, des ceintures à comprimer le ventre, de vieux gilets déteints aux entournures, des chaussettes légèrement noircies aux talons et jaunies dans les bouts. Votre femme rit en regardant votre amie et vous n'osez pas vous fâcher, vous riez aussi. Mais quel rire! Les malheureux le connaissent. Cet enfant vous cause en outre des peurs chaudes quand vos rasoirs ne sont plus à leur place. Si vous vous fâchez, le petit drôle sourit et vous montre deux rangées de perles. Si vous le grondez, il pleure. Accourt la mère, une mère qui va vous haïr si vous ne cédez pas. Il n'y a pas de mezzo termine avec les femmes. On est un monstre ou le meilleur des pères. Dans certains moments, vous concevez Hérode et ses fameuses ordonnances sur le massacre des innocents qui n'ont été surpassées que par celles du bon Charles X.
Décidément, Caroline, nous mettrons Charles en pension.
Charles ne peut pas aller en pension.
Dit-elle d'un petit ton doux.
Charles a 6 ans, l'âge auquel commence l'éducation des hommes.
Je ne veux pas mettre encore Charles au collège. Il faut être encore plus fort qu'il ne l'est pour y entrer.
Charles est très fort pour son âge.
Charles ? Les hommes ! Mais Charles est d'une constitution très faible, il tient de vous.
Le « vous » commence.
Si vous voulez vous défaire de votre fils, vous n'avez qu'à le mettre au collège. Mais il y a déjà quelque temps que je m'aperçois bien que cet enfant vous ennuie.
Allons, mon enfant m'ennuie à présent. Te voilà bien. Nous sommes responsables de nos enfants envers eux-mêmes. Il faut enfin commencer l'éducation de Charles. Il prend ici les plus mauvaises habitudes. Il n'obéit à personne, il se croit le maître de tout. Il donne des coups et personne ne lui en rend. Il doit se trouver avec des égaux. Autrement, il aura le plus détestable caractère.
Merci. J'élève donc mal mon enfant.
Je ne dis pas cela. Vous aurez toujours d'excellentes raisons pour le garder.
Ici, le « vous » s'échange et la discussion acquiert un ton aigre de part et d'autre. Votre femme veut bien vous affliger du « vous », mais elle se blesse de la réciprocité.
Enfin, voilà votre mot. Vous voulez m'ôter, mon enfant. Vous vous apercevez qu'il est entre nous, vous êtes jaloux de votre enfant. Vous voulez me tyranniser à votre aise et vous sacrifiez votre fils. J'ai bien assez d'esprit pour vous comprendre.
Mais vous faites de moi Abraham tenant son couteau. Ne dirait-on pas qu'il n'y a pas de collège? Les collèges sont vides, personne ne met ses enfants en collège.
Vous voulez me rendre aussi par trop ridicule. Je sais bien qu'il y a des collèges, mais on ne met pas des garçons au collège à 6 ans. Et Charles n'ira pas au collège.
Mais ma chère amie, ne t'emporte pas.
Comme si je m'emportais jamais. Je suis femme et sais souffrir.
Raisonnons.
Oui, c'est assez déraisonné.
Il est bien temps d'apprendre à lire et à écrire à Charles. Plus tard, il éprouverait des difficultés qui le rebuteraient.
Ici, vous parlez pendant 10 minutes sans aucune interruption et vous finissez par un...
Eh bien ?
Armé d'une accentuation qui figure un point interrogeant extrêmement crochu.
Eh bien, il n'est pas encore temps de mettre Charles au collège. Il n'y a rien de gagné.
Mais, ma chère, cependant, Monsieur Deschard a mis son petit Jules au collège à 6 ans.
Vous parlez encore 10 minutes sans aucune interruption, et quand vous jetez un autre...
Eh bien ?
Le petit Deschard est revenu avec des engelures.
Mais Charles a des engelures ici.
Jamais.
Dit-elle, d'un air superbe. Charles a-t-il eu ou n'a-t-il pas eu des engelures ? Vous vous renvoyez des allégations contradictoires. Vous ne vous croyez plus l'un l'autre. Il faut en appeler à des tiers. Axiome.
Tout ménage a sa cour de cassation, qui ne s'occupe jamais du fond et qui ne juge que la forme.
La bonne est mandée, elle vient, elle est pour votre femme. Il est acquis à la discussion que Charles n'a jamais eu d'engelure. Caroline vous regarde, elle triomphe, et vous dit ces ébouriffantes paroles.
Tu vois bien qu'il est impossible de mettre Charles au collège.
Vous sortez suffoqué de colère. Il n'y a aucun moyen de prouver à cette femme qu'il n'existe pas la moindre corrélation entre la proposition de mettre son enfant au collège et la chance d'avoir ou de ne pas avoir des engelures. Le soir, devant 20 personnes, après le dîner, vous entendez cette atroce créature finissant avec une femme sa longue conversation par ces mots.
Il voulait mettre Charles au collège, mais il a bien vu qu'il fallait encore attendre.
Quelques maris, dans ces sortes de circonstances, éclatent devant tout le monde. Ils se font minotauriser 6 semaines après. Mais ils y gagnent ceci, que Charles est mis au collège le jour où il lui échappe une indiscrétion. D'autres cassent des porcelaines en se livrant à une rage intérieure. Les gens habiles ne disent rien et attendent. La logique de la femme se déploie ainsi dans les moindres faits, à propos d'une promenade et d'un meuble à placer, d'un déménagement. Cette logique, d'une simplicité remarquable, consiste à ne jamais exprimer qu'une seule idée, celle qui formule leur volonté. Comme toutes les choses de la nature femelle, ce système peut se résoudre par ces deux termes algébriques « oui, non ». Il y a aussi quelques hochements de tête qui remplacent tout.
Jésuitisme des femmes.
Le jésuite, le plus jésuite des jésuites, est encore mille fois moins jésuite que la femme la moins jésuite. Jugez combien les femmes sont jésuites. Elles sont si jésuites que le plus fin des jésuites lui-même ne devinerait pas à quel point une femme est jésuite, car il y a mille manières d'être jésuite, et la femme est si habile jésuite qu'elle a le talent d'être jésuite sans avoir l'air jésuite. Voici un des mille exemples du jésuitisme de la femme, et cet exemple constitue la plus horrible des petites misères de la vie conjugale. Elle en est peut-être la plus grande. Poussée par les désirs mille fois exprimés, mille fois répétés de Caroline, qui se plaignait d'aller à pied, de ne pas pouvoir remplacer assez souvent son chapeau, son ombrelle, sa robe, quoi que ce soit de sa toilette, de ne pas pouvoir mettre son enfant en matelot,
les jambes nues, en jaquette, en redingote, en bottes, en pantalon,
de ne pas pouvoir lui acheter assez de joujoux, des souris qui trottent toutes seules,
de petits ménages complets,
ou rendre à Madame Deschars ni à Madame de Fichetaminel leur politesse,
un bal, une soirée, un dîner,
ou prendre une loge au spectacle, d'avoir à chercher un fiacre à la sortie du spectacle.
Tu crois faire une économie, tu te trompes.
Vous dit-elle.
Les hommes sont tous les mêmes. Je gâte mes souliers, je gâte mon chapeau, mon châle se mouille, tout se fripe, mes bas de soie sont éclaboussés. Tu économises 20 francs de fiacre et tu perds pour 50 francs de toilette. Puis tu souffres dans ton amour propre en voyant sur ma tête un chapeau fané.
Enfin, battue dans mille scènes conjugales, battue par les raisonnements les plus logiques, battue par les caresses les plus chattes, battue par des larmes, battue par vos propres paroles, battue par des singeries gracieuses, « si tu fais cela, je ferai ceci », les femmes deviennent alors plus marchandes que les Suisses et les banquiers. Enfin, battue comme on est battue, vous vous déterminez à risquer dans une entreprise une certaine portion de votre capital. Un soir, entre chien et loup, côte à côte, pendant que Caroline est là, à moitié éveillée, vous lui dites
« Eh bien, ma chère amie, il se présente une occasion de quintupler 100 000 francs et je suis décidée à faire cette affaire. »
Elle se réveille, elle se dresse sur ce qu'on est convenu d'appeler son séant, elle vous embrasse, oh là, bien.
Tu es gentil.
Est son premier mot. Ne parlons pas du dernier, c'est une énorme et indicible onomatopée assez confuse.
Maintenant, explique-moi cette affaire.
Et vous tâchez d'expliquer l'affaire. D'abord, les femmes ne comprennent aucune affaire. Elles ne veulent pas paraître les comprendre, elles les comprennent à leur fantaisie. Votre chère créature, Caroline, ravie, dit que vous avez eu tort de prendre au sérieux ses désirs, ses gémissements, ses envies de toilette. Elle a peur de cette affaire, elle s'effarouche des gérants, des actions et surtout du fonds de roulement. Le dividende n'est pas clair. Axiome.
Les femmes ont toujours peur de ce qui se partage.
Enfin, Caroline craint des pièges. Mais elle est enchantée de savoir qu'elle peut avoir sa voiture, sa loge, les habits variés de son enfant, etc. Tout en vous détournant de l'affaire, elle est visiblement heureuse de vous voir y mettant vos capitaux. Première époque.
Oh, ma chère, je suis la plus heureuse femme de la Terre.
Madame, cette affaire est donc...
Ouh, superbe, les actions doivent monter. Il me l'a expliqué avant de s'y jeter, car Adolphe ne fait rien sans prendre conseil de moi.
Vous êtes bien heureuse.
Le mariage n'est pas tolérable sans une confiance absolue. Et Adolphe me dit tout.
Vous êtes, vous, Adolphe, le meilleur mari de Paris. Un homme adorable, un génie, un cœur, un ange. Aussi êtes-vous choyé à en être incommodé. Vous bénissez le mariage. Caroline vante les hommes, ces rois de la création. Les femmes sont faites pour eux. L'homme est généreux. Le mariage est la plus belle institution. Durant 3 mois, 6 mois, Caroline exécute les concertos, les solos les plus brillants sur cette phrase adorable.
J'aurai 1000 francs par mois pour ma toilette. Je vais avoir un équipage.
Il n'est plus question de l'enfant que pour savoir dans quel collège on le mettra. Deuxième époque.
Eh bien, mon cher ami, où doit en aller cette affaire? Et cette affaire qui doit me donner une voiture?
Elle est bien longtemps à se faire, cette affaire-là.
Quand l'affaire sera-t-elle finie?
Il n'y a que toi pour trouver des affaires qui ne se terminent pas.
Un jour, elle vous demande...
Y a-t-il une affaire?
Si vous venez à parler de l'affaire, au bout de 8 à 10 mois, elle répond...
Ah! Cette affaire! Il y a donc vraiment une affaire?
Cette femme, que vous avez cru sotte, commence à montrer incroyablement d'esprit quand il s'agit de se moquer de vous. Pendant cette période, Caroline garde un silence compromettant quand on parle de vous ou dit du mal des hommes en général.
Les hommes ne sont pas ce qu'ils paraissent être. On ne les connaît qu'à l'user. Le mariage a du bon et du mauvais. Les hommes ne savent rien finir.
Troisième époque, catastrophe. Cette magnifique entreprise qui devait donner 5 capitaux pour un, à laquelle ont participé les gens les plus instruits, des députés et des banquiers, tous chevaliers de la Légion d'honneur, cette affaire est en liquidation. Les plus hardis espèrent 10% de leurs capitaux. Vous êtes triste.
Il faudra maintenant la plus stricte économie.
Dites-vous imprudemment. Le jésuitisme de la femme éclate alors sur ce mot économie. Le mot économie met le feu aux poudres.
Ah, voilà ce que c'est que de faire des affaires. Pourquoi donc toi, si prudent, es-tu donc allé compromettre 100 000 francs? J'étais contre l'affaire, souviens-t'en. Mais tu ne m'as pas écouté.
Sur ce thème, la discussion s'envenime.
Vous n'êtes bon à rien. Vous êtes un incapable. Les femmes seules voient juste. Vous avez risqué le pain de vos enfants.
Elle vous en a dissuadé. 100 fois par mois, elle fait allusion à votre désastre.
Si monsieur n'avait pas jeté ses fonds dans une telle entreprise, je pourrais avoir...
ceci, cela...
Quand tu voudras faire une affaire une autre fois, tu m'écouteras.
Adolphe est atteint et convaincu d'avoir perdu 100 000 francs à l'étourdi, sans but, comme un sot, sans avoir consulté sa femme. Caroline dissuade ses amis de se marier. Elle se plaint de l'incapacité des hommes qui dissipent la fortune de leurs femmes. Caroline est vindicative, elle est sotte, elle est atroce. Plaignez, Adolphe. Plaignez-vous, ô mari. Ô garçon, réjouissez-vous.
Petite misère de la vie conjugale.
De Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossier. Avec les comédiens de la Comédie Française. Michel Vuillermoz, Jennifer Decker, Noam Morgenstern et Christian Gonon, Pauline Méreuse. Bruitage, Patrick Martinage, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossier.